La parole est à la salle.
Christine Tobu.
Je me lance peut-être. C'est plutôt une question, une remarque qui s'adresse à Raphaël. Quand on parle de préférence alimentaire, on induit derrière une idée de choix. Donc pour moi, ce n'est pas exactement la même chose, le même concept, préférence alimentaire et satisfaction alimentaire. Donc et quand on parle de choix, évidemment, il faut pouvoir avoir le choix. Donc il faut qu'il y ait, soit en termes d'approvisionnement, soit en termes d'accessibilité, une potentialité de pouvoir choisir. Mais finalement, quand on regarde les résultats que tu apportes, on se rend compte que la rationalité des mangeurs, que ce soit au Burkina ou dans les pays développés, finalement, elle est multifactorielle et elle n'est pas si différente. Évidemment, il y a un poids plus important de certains facteurs dans certains contextes, mais les différents facteurs que tu as listés, hédonistes, physiologiques, sociaux, culturels, identitaires, ils se retrouvent avec des poids plus ou moins importants, mais finalement, il n'y a pas une rationalité occidentale ou une rationalité africaine. Pour moi, j'ai pas eu cette impression-là du tout. Après, ce qui aurait été intéressant, je pense, c'est d'analyser, en plus des discours, c'est d'analyser les pratiques, puisqu'en plus, tu as eu la chance d'habiter pendant 45 jours dans une famille, c'est de regarder, au-delà des représentations et des attitudes, les pratiques réelles de ce qui se passait. Est-ce que tu as eu le temps de faire ça?
Oui, alors sur la question de... Enfin, c'était justement mon objet que d'essayer de montrer que ce schéma de la satisfaction alimentaire avec quatre fonctions était universel. Et ce qui est intéressant, c'est de l'utiliser et de la décliner dans les différents contextes pour voir quelle chose a le plus de poids dans quels endroits, mais aussi pour voir que c'est pas juste une question de nord-sud, mais c'est aussi et surtout une question d'individu, la manière de se positionner. Oui, j'ai essayé de confronter discours et pratique, et c'est ce que j'ai essayé de dire, mais j'ai peut-être pas assez mis en avant dans ce schéma, dans la présentation. Oui, quand je dis que Maïmouna, par exemple, dans son discours, dit qu'elle préfère le taux dans ce « on » socialisé, mais que Bintou me fait remarquer, et j'ai pu l'observer aussi, que dans la pratique, elle ne mange pas de taux, ou elle en mange moins, elle préfère ce qui vient d'autre part. Donc oui, j'ai essayé de le prendre en compte. Après, c'est difficile dans une présentation comme ça de tout dire. Et sur la question de la différence entre choix et satisfaction alimentaire et préférence alimentaire, je prends la préférence alimentaire, l'expression en tout cas des préférences alimentaires, comme un proxy de la satisfaction, parce que parler de satisfaction, c'est pas opérant. Mais sauf que du coup, j'essaye d'envisager dans mes questions la préférence alimentaire pas uniquement comme une préférence de mets, enfin de plats ou d'aliments, mais comme une préférence qui englobe l'ensemble de ses fonctions. Et du coup, c'est pas qu'une question de choix alimentaire en termes de telle céréale ou pas assez les moyens pour avoir la diversité alimentaire, mais c'est de reprendre en compte tout ce qu'il y a d'autre, donc aussi la commensalité, donc aussi comment ça transforme le corps, donc aussi à quel moment, dans quelle posture, dans quelle pratique. Voilà, en essayant de pas réduire cette préférence alimentaire juste à du taux sauce gombo ou alors du riz gras beaucoup plus riche.
Nicolas ?
Tu peux imaginer que j'ai envie de dire des choses.
J'imagine des questions de beaucoup de gens là. Je sais que ça va venir.
Bon, mais moi je voudrais vraiment vous remercier parce que c'est hyper stimulant. Je me sens en face sur plein de choses de ce que vous dites. Et je vois qu'il y a vraiment des questions qu'on a beaucoup discutées, par exemple avec Mila Lebrun dans sa thèse sur la satisfaction, qui reviennent là et qui sont plus avancées que ce qu'on avait réussi à discuter. Donc je trouve que c'est vraiment très stimulant. J'ai deux grands points. Un point pour Pierre, un point pour Raphaël. En fait, Pierre... j'apprécie vraiment la façon dont tu formalises la volonté de prendre en compte le point de vue des acteurs d'être attentif à leurs pratiques pour construire d'autres formes d'action, d'autres formes d'intervention, d'autres formes de politique. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de s'interroger aussi pourquoi cette injonction participative d'inclusion du point de vue des acteurs, d'attention à leurs pratiques, d'attention à leurs discours, pourquoi aujourd'hui c'est omniprésent dans toutes les constructions de politique et dans toutes les constructions de projets, même si c'est de fait pas forcément très mis en œuvre. Mais il y a une espèce d'injonction de la participation, de l'émic, la prise en compte du point de vue des acteurs, que l'on retrouve maintenant partout dans tous les projets, dans toutes les politiques. Et ce que je vois, c'est que tu dis bien que ça prend racine, cette volonté de prise en compte du point de vue des acteurs, dans la contestation des approches technocratiques, piloté par le haut, piloté par des acteurs politiques qui seraient du coup incapables de prendre en compte le point de vue des acteurs du bas, on va dire, ou si on prend les trucs de Ballandier. Mais... Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent ces acteurs, enfin ces visions d'opposition au point de vue technocratique négligent un peu l'hétérogénéité des points de vue à l'intérieur des deux grands camps qu'on doit se dessiner, c'est-à-dire d'un côté les technocrates et de l'autre côté la population. Et ce que je trouve que tu montres très bien, c'est, Raphaël, c'est que la population n'est pas du tout homogène, tu ne la traites pas comme un ensemble, comme les gens disent, les gens veulent, et on voit bien, même au sein d'une même famille, qu'il y a des différences de points de vue, et donc d'appréhender l'hétérogénéité de ces mangeurs, je trouve que c'est vraiment ça qui va plus loin que ce qu'on a pu souvent lire, ou on révèle en fait ce que veut la population, comme si c'était une espèce de tout homogène, bon, qui s'oppose à un tout homogène qui sont les technocrates. Mais du coup, ça m'invite aussi à dire, ne négligeons pas le fait que les technocrates sont traversés de très fortes contradictions, de débats internes sur qu'est-ce que c'est que la sécurité alimentaire ou la sécurisation alimentaire, avec plein de technocrates qui revendiquent la sécurisation alimentaire et pas la sécurité alimentaire, et donc de rendre compte des débats internes au sein de cette... Tu vois, l'idée étant d'éviter d'opposer technocrates et population, comme parfois on l'a pu lire, mais c'est vraiment pas ça que vous faites, et c'est ça que je trouve intéressant. Mais la question que je me pose quand même sur cette injonction participative, c'est que elle me semble souvent, dans les projets et dans les politiques, être un instrument de légitimation des politiques standards. C'est-à-dire que maintenant, on continue de faire les mêmes politiques, mais maintenant, on a consulté, on a pris en compte, on a demandé au mangeur ce qu'il veut, ce qu'il pense, ses préférences, ce que bien manger veut dire. Mais fondamentalement, ça ne change pas grand-chose à ce qu'on continue de faire. Et que Il n'est pas anodin de se rendre compte que non seulement aujourd'hui les politiques financent la recherche en socio-anthropologie de l'alimentation pour la prise en compte des points de vue des mangeurs, mais même les entreprises. Chez vous, c'est Nutricept, chez nous, c'est Danone, qui financent une meilleure compréhension du point de vue des acteurs. Pour faire quoi ? Pour légitimer un... Alors, pas forcément un business as usual, c'est ça qu'on a vu, c'est que c'est effectivement, ça change des choses. Mais... Soyons conscients aussi du fait que c'est aussi un instrument de légitimation pour surtout rien changer aux politiques. Et le troisième point, c'est que cette prise en compte des acteurs, elle me semble parfois... Enfin, cet intérêt, par exemple, pour la satisfaction, me semble parfois aussi correspondre à un retrait de l'intervention de l'État. Je m'explique. Quand on commence à lire que, finalement, si les gens sont satisfaits d'être obèses, ou de mourir du cancer du poumon, pourquoi est-ce qu'on s'irait s'embêter à faire des politiques nutritionnelles ou des politiques de lutte anti-tabac ? Puisque finalement, les citoyens et les électeurs, par exemple, pourraient dire les politiques, finalement, s'ils sont contents, satisfaits de leur situation, pourquoi irait-on faire des politiques qui vont les embêter, finalement ? Et donc, il y a quand même dans cette mode, dans cette montée en puissance du bien-être ressenti, un rapport Stiglitz-Fitoussi commandé par Sarkozy, enfin tout ce qui est ce mouvement des happiness studies qu'on a beaucoup exploré dans la thèse de Mila, en fait, en même temps, en quoi il n'est pas un instrument d'une véritable libéralisation et donc d'un véritable retrait de l'intervention publique, quoi. Et je trouve que là-dessus, il faut qu'on s'interroge nous-mêmes sur notre intérêt à explorer la satisfaction. J'en viens à mon deuxième point, j'essaie d'aller vite. Parce qu'effectivement, on a utilisé, et on retrouve bien le projet qu'on avait avec la thèse de Mila, la satisfaction comme un moyen de regarder les choses positivement. Pourquoi les gens Enfin, comment est-ce que les gens peuvent exprimer positivement leur rapport à l'alimentation plutôt que comme un degré de manque, qui était l'approche classique, d'une part, et d'autre part, satisfaction rendant compte de la multifonctionnalité de l'alimentation. Et en même temps, que ce soit satisfaction ou préférence, même si je suis d'accord avec ce que dit Christine sur la nuance qu'il y a entre les deux, ce sont typiquement des termes d'une situation dans laquelle l'alimentation n'est plus un allant de soi, n'est plus une routine. Je peux être satisfait si j'ai du choix. Pas forcément du choix économique, mais du choix lié au fait que j'ai supprimé ou atténué le caractère allant de soi de l'alimentation. Parce que quand on a fait nos entretiens qualitatifs sur qu'est-ce que ça voulait dire de parler de satisfaction, on a bien vu au Mali qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais qu'est-ce que tu veux parler de satisfaction quand, de toute façon, tu manges ce que tu as l'habitude de manger ?» C'est-à-dire que tu ne te poses pas la question. Il y a quelqu'un qui disait comme ça « Est-ce que tu parles de satisfaction quand tu te brosses les dents le matin ?» Bon, voilà, tu te brosses les dents. Tu ne te poses pas la question de savoir si tu es satisfait de te brosser les dents. Et c'est pareil pour l'alimentation. Donc, c'est-à-dire aussi que satisfaction et DRM et tous ces trucs de Kahneman...
C'est quoi DRM ?
Reconstruction Method. Ah. C'est la méthode de mesure du bien-être ressenti. Donc, dans laquelle il y a deux composantes, dont la satisfaction. Mais toute cette mode de ces méthodes d'évaluation de la satisfaction renvoie à des situations de société qui sont dans des situations d'hyper-choix. Et dans lequel, puisque tu as hyper-choix, tu as donc en face la satisfaction. Mais quand tu n'es pas dans des situations d'hyper-choix... Est-ce que ça veut dire encore quelque chose ? Cela dit, on n'a pas trouvé autre chose. Mais je trouve que tu le poses très bien, d'ailleurs, parce que quand tu parles de réalisme économique, de gens qui disent « Bon, qu'est-ce que je vous dis ?» Moi, je sais pas quoi vous dire. Moi, je mange ce qu'il y a, quoi. Non, j'ai pas de questions, j'ai des commentaires là-dessus. C'est tout. Mais... Bon, voilà, je m'arrête. Du coup, tu m'as coupé dans mes élans, je m'arrête. Voilà,
allez.
C'est bon. Non, c'est bon.
Moi, j'ai deux, trois choses. Sur la prise en compte de la participation ou cette espèce de rhétorique qui servirait d'alibi aux opérateurs et aux technocrates, enfin, ceux qui seraient extérieurs aux sociétés locales, c'est vrai que c'est, en effet, pour moi, une rhétorique. Et on le voit bien parce que quand on rentre dans les véritables arbitrages qui sont réalisés ou les pratiques concrètes des ONG ou des projets de développement, on s'aperçoit que la participation, ça veut dire qu'il y a des niveaux de contrôle, de mise sous tutelle et d'émancipation qui sont très différenciés. Je sais pas si tu connais cet article de Xavier Amelot sur la cartographie participative. Il a en effet tenté de serrer, de construire en effet entre les usages, les acteurs et les niveaux de contrôle, de montrer qu'on parlait de quelque chose qui était complètement protéiforme et très différencié en termes de niveau effectif de participation. Et c'est vrai qu'il y a nécessité sans doute à le déconstruire pour savoir de quoi on parle concrètement. Ce qu'on a vu nous aussi à la part compte tenu de la mission qui vient de se terminer, qui se met en route sur le rôle clé à l'échelle intermédiaire des acteurs sociaux et des formes, des groupements et le rôle, c'est que cette hétérogénéité, elle est très vraie. Et on a quelques individus, le rôle clé de courtier, des donneurs d'ordre ou des porteurs d'action. Je pense à une réunion qu'on a eue, un peu réunion au garde à vous, de l'ensemble de personnes qui sont impliquées dans un projet là, que vous connaissez, le projet REPAM financé par l'Union européenne avec le GRET. Il y a des acteurs qui sont censés représenter le milieu paysan avec différentes casquettes. Il y en a un qui est financé, il est là au titre de l'Union des groupements paysans de la Boucle du Monde, et il est financé pour SES, de l'autre, et financé par le REPAM. Il n'a pas le même niveau de salaire, il ne dit pas les mêmes choses. L'autre est le secrétaire général, figure historique, le senior, et tout le monde le regarde parce que c'est le chef qui doit parler. Et il y a le petit adjoint technique ou stagiaire universitaire. Donc, qui parle au nom de quoi, avec quelle légitimité, face à qui? Et savoir, donc, de pouvoir préciser qui prend les décisions et qui parle à quel titre. Du coup, il faut savoir, il faut tenir compte justement de ce qui paraît être un panel représentatif, et l'est-il déjà ? Et ensuite, il y a des niveaux de responsabilité, de pouvoir et des enjeux individuels en termes de carrière, etc., qui font qu'on est face en effet à des choix qui sont très, très différents en termes d'expression. Et donc, on souhaite aller un peu au-delà de la prise en compte des acteurs locaux dans le milieu paysan pour savoir justement qu'est-ce qui se passe réellement. Et on voit bien que tout le monde n'a pas forcément le droit à la parole. Et puis, On est un peu sur des arrangements, des assemblages en termes de montage de projet où les groupements peuvent servir d'alibi parce qu'on a besoin d'eux pour accéder à de la ressource. Donc la question de l'accès aux ressources pour chacun des acteurs qui composent ce partenariat en termes de recherche-action nous semble être au cœur des choses afin de savoir de quoi on parle, pour sortir d'un discours qui est un peu théorique ou qui est un peu peut-être réifiant. Voilà, je pense que ça c'est... En tout cas, c'est de l'ambition qu'on a avec les deux post-docs qui vont se mettre au travail là-dessus, sur un terrain, une échelle régionale et pas seulement à l'échelle nationale. On verra de quoi s'il va en retourner, de quoi on sera capable, mais enfin, on va essayer de faire ça avec la finesse de ce grain d'analyse et d'observation. Voilà.
Franck ?
Moi, j'ai une petite question plutôt pour Raphaël. En fait, si j'ai bien compris, en partant du point de départ que l'alimentation a un aspect multidimensionnel pour les personnes concernées, pour les consommateurs, pour les mangeurs, avec l'aspect hédonique, physiologique, identitaire, social, tu en déduis de manière assez un peu... que du coup, ce serait bien aussi que les politiques de sécurité alimentaire... prennent en compte cette multidimensionnalité. Et ce lien, en fait, me paraît pas évident. C'est-à-dire que c'est pas parce que les mangeurs, effectivement, ont une approche multidimensionnelle de l'alimentation que forcément les politiques doivent prendre toutes ces dimensions-là en compte. Est-ce que, finalement, c'est bien que l'État essaye de contrôler l'alimentation des populations dans toutes leurs dimensions ? Est-ce que finalement, c'est pas mieux que l'État ait une approche un peu minimaliste et à s'occuper de vraiment ce qui est... que les gens meurent pas de faim, mais après, de laisser les gens vivre leur vie? Est-ce que finalement, c'est pas mieux? Enfin, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, j'en sais rien, hein, je dis ça comme ça. Mais tout à l'heure, en plus, un truc qui m'a vraiment interpellé, c'est que tu disais à la fois, les politiques ne s'intéressent qu'à l'aspect physiologique et aussi qu'aux facteurs extrinsèques, qu'aux déterminants extrinsèques, c'est-à-dire ce qui est lié à la disponibilité, à l'accès, tout ça. Et moi, je me dis, mais si vraiment l'État essayait de se mêler, enfin l'État ou les ONG ou les organisations onusiennes ou enfin un peu tout le monde, tous les acteurs publics, essayaient de s'intéresser aux facteurs intrinsèques, c'est-à-dire de modifier la manière dont les gens perçoivent leur alimentation ou les préférences alimentaires des gens, je sais pas, moi, ça fait un peu flipper, quoi.
En fait, l'idée, c'est pas de vouloir s'occuper de ces autres fonctions pour les modifier, mais c'est au moins de se questionner sur leur existence et sur si on s'intéresse aux déterminants extrinsèques et aux facteurs physiologiques, et si on ne s'intéresse que à ça, qu'est-ce que ça peut impacter sur les autres fonctions ? Et de toute manière, ça va impacter les autres fonctions, mais comme dans le schéma de l'alimentation des acteurs de la sécurité alimentaire, et du coup, c'est pas uniquement les politiques publiques étatiques, c'est, enfin, il y a un nombre infini d'ONG, qu'elles soient internationales, nationales ou juste d'associations au Burkina, c'est de toute façon, ça a impacté les autres fonctions. Donc, est-ce qu'il ne faut pas avant essayer de comprendre ce que ça veut dire manger pour les gens pour voir ben, justement ce qu'on peut impacter, ce qu'on ne peut pas impacter, et juste de en fait, c'est ça, c'est de rappeler que. Effectivement, tant qu'il n'y a pas de mort imminente liée au manque, bah manger, ça veut dire beaucoup plus de choses. Et qu'est-ce qu'on risque en ne s'intéressant qu'à cet aspect-là ? Et moi, je le vois justement parce que ma thèse est financée par Nutricept, qui produit le Plum Peanut, donc un aliment de traitement traitement de la malnutrition, et qui développe de plus en plus des produits de prévention de l'alimentation. Mais du coup, on est aussi dans cette médicalisation de l'alimentation, et le message qu'on fait passer, c'est « manger, ça ne sert qu'à ça ». Et toi, maman, tu ne sais pas nourrir ton enfant parce qu'il manque de ça, ça, ça. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour les mamans de ne penser l'alimentation que comme ça ? Et est-ce que c'est pas aussi... Oui, enfin, c'est... Est-ce que ce serait pas intéressant de revaloriser les identités alimentaires, les patrimoines, pour essayer de comprendre tout ça dans un tout. Et moi, ça me semblerait plus sain, en tout cas. Et les grands traits, entre guillemets, traditionnels, patrimoniaux, que ce soit artistiques, comme il y a eu au Mali ou comme même il y a eu au Burkina, ça a été aussi le fruit de politiques culturalistes très,
très vindicatif, hein, très, très volontariste. Et est-ce que c'est forcément un mal? Non, je pense pas, si ça permet de... Enfin, justement, de renforcer la diversité, de reprendre en compte les acteurs et de ne pas uniquement voir ça comme un manque. Voilà, c'est une réflexion qui est en cours.
Donc voilà, moi j'adore ce que tu dis, j'adore. Mais alors, j'attends que tu écrives tout ça, vraiment, parce que, en fait, moi j'ai travaillé au Cameroun, et il y a plein de choses qui sont pareilles, mais j'ai jamais écrit ça, parce que moi je suis pas une sociologue, je sais pas bien écrire ces trucs-là, donc je sais pas bien organiser non plus, puis peut-être que, voilà, voilà. Donc en tous les cas, ce que j'aime beaucoup, c'est cette vision effectivement positive. Et aussi ce que tu dis, c'est essayer de constituer des savoirs et de participer à justement à la constitution de ces préférences en les mettant en scène, en les ouvrant, en les faisant voir. Et j'espère de tout cœur que tu puisses les faire voir à notre monde là, mais aussi sur place, comme tu disais en conclusion, faire des espèces de politiques culturelles, un peu de fierté nationale, etc. Mais avec l'ambiguïté, effectivement, ça c'est un débat qu'on a vu avec Jean-Joël Faufiri qui est ici, qui vient d'écrire un article sur les patrimoines alimentaires au Nord Cameroun. Et je lui dis, mais il faut faire un peu gaffe, parce que les patrimoines, c'est un truc figé, tu vois, c'est un truc vachement... Bon, il y a une connotation qui peut être positive parfois, mais parfois un peu sclérosante. Et en fait, ce que j'aime là-dedans, cette idée de patrimoine, c'est effectivement de mettre en valeur et en perspective des savoirs locaux, des multiplicités de qualité, de goût, de plaisir de vivre, tu vois. Mais que dans la ville aussi, ça évolue, c'est dynamique, tu vois. Il faut vraiment faire attention à ça, à mon avis. Enfin, tu as dû le voir, et tu le dis, mais ça fait partie de mes préoccupations, c'est ça. Un, de montrer ces dynamiques-là. Voilà. Et deux, moi aussi, j'étais un peu surprise par le fait que tu emploies préférence. Parce que préférence, moi qui suis une microéconomiste, tu vois, je suis vraiment du côté des méchants qui font des modèles où on dit, voilà, les gens ont des préférences, ils optimisent sous contrainte et ils choisissent leur aliment par rapport à un budget temps ou un budget d'argent. Et préférence, pour moi, c'est vraiment un terme des économistes hyper standard, quoi. Donc... Et par rapport aussi, mais on en a déjà beaucoup parlé, au fait que, effectivement, pour exprimer des préférences, il faut être capable de se constituer comme individu. Mais ça, tu le montres très très bien. Enfin, moi, j'adore ça, quoi. Je trouve ça parfait. Ça me m'éclaire sur des choses que je sens et que je vois. Mais ouais, c'est difficile, quoi. Et ce travail-là mérite vraiment d'être écrit, publié, valorisé. Voilà. Donc, c'était mon enchantement que je voulais manifester. Et dernière chose, est-ce que tu as fait des choses projectives, des questions projectives? Du style, c'est pas toi qui dis ton préférence individuelle, mais tu dis ce que c'est que bien manger, tu vois. Il y avait au Sud Cameroun, les gens, ils avaient fait un truc bien manger, bien vivre, là. Tu sais, il y a deux volumes d'une grosse conférence. Et je trouvais que ce titre était magnifique, parce que c'est, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est bien, qu'on vit bien? Et dans ce qu'on pratique tous les jours, qu'est-ce qui fait qu'on est content? Et ça, t'as tellement de choses positives à raconter, et c'est tellement facile... Tu vois, donc je me demandais sur ces questions projectives, c'est plus facile de dire ça, voilà. Bon, après, ouais, nous, on a fait aussi plein de choses sur la qualité, c'est-à-dire on prend pas le biais des gens. Je pense que c'est indispensable, que c'est vraiment très très bien, hein, ça. Mais nous, on a fait beaucoup d'enquêtes, là, toute l'équipe, là, quand on travaille vraiment sur ces questions il y a une dizaine, une vingtaine d'années. Donc sur... Et puis moi, je continue encore un peu à faire ça sur certains produits. C'est sur tel produit, qu'est-ce qui est de la bonne qualité, tu vois. Mm-hmm. Et là, eh ben, tu rentres dans du concret. Les bonnes femmes, elles peuvent t'expliquer ce qui est bien à tel moment, par rapport à telle situation, etc., etc. Donc là aussi, tu as une entrée, il me semble, qui est très, très efficace pour faire révéler... Alors, tu vois, moi, je dis des préférences parce que c'est dans mon... Voilà, des choses qui sont... bien dans tel contexte pour telle personne, etc., etc. Donc, je sais pas si t'as fait ça. Bon, voilà, c'est peut-être là.
Alors, pour les questions prospectives, enfin, ouais, de projection plutôt sur bien manger, bien vivre, je l'ai pas abordé comme ça et j'ai essayé vraiment de partir des pratiques, mais effectivement, c'est peut-être une lacune. Après, j'ai pas non plus exploité tous les entretiens et toutes les parties d'entretien, parce que là, je m'étais plus focalisée sur... sur cette question des préférences. Et en fait, c'est vrai que j'utilise le terme préférence peut-être pas comme il faudrait, pas dans l'acception de la recherche, mais c'était en tout cas le mot que j'utilisais moi dans mes entretiens. Et du coup, ouais, enfin, moi j'avais l'impression que ça parlait un peu aux gens, ouais, ouais, plus qu'autre chose, mais effectivement, c'est pas le terme préférence de l'économiste. Et donc, effectivement, il va falloir que je fasse attention à ça. Et sur la question des patrimoines alimentaires et des dynamiques de valorisation patrimoniale, entre guillemets, c'est justement quelque chose que je trouve super intéressant en milieu urbain, à Ouaga, c'est la manière dont les gens se réapproprient des plats qui sont considérés, voilà, comme traditionnels et qui les modernisent. Et ils appellent eux-mêmes ça des plats traditionnels modernisés. C'est l'exemple du Bebenda que je vous ai montré là. Et ça, j'en ai pas parlé beaucoup, mais c'est super intéressant comme dynamique. Et j'en ai fait un petit film sur ce que le Bebenda c'est comme plat traditionnel modernisé. C'est intéressant de voir comment ce plat, qui était un plat de soudure, très stigmatisé, en temps de manque, qui est fait avec peu de choses, est réapproprié aujourd'hui par les consommateurs urbains et devient un symbole principalement du plateau Mossi, et devient un symbole d'une identité burkinabé avec des ancrages ruraux, avec un patrimoine, et comment du coup il est transformé symboliquement, mais il est aussi transformé matériellement parce que on change un petit peu les manières de préparer, on change un petit peu les ingrédients qu'il y a dedans, mais ça reste le Bebenda et ça reste ce symbole-là. Et ça, je trouve ça super intéressant.
Et ça dépasse le cadre ethnique. Ça devient ouagalé.
Alors, ça dépasse un peu le cadre ethnique, mais il y a encore des... Enfin, ça reste à Ouaga. À Bobo, tu ne mangeras pas de Bebenda.
Oui, oui. Non, mais à Ouaga, ça devient un truc ouagalé.
Un peu, mais pas encore totalement, complètement. Hein. Et c'est pour ça que... Enfin, il y a plein d'exemples comme ça de plats traditionnels typiques entre guillemets, comme le Bebenda pour les Mossi, mais il y a les Busan Touba pour les Gurunsi. Enfin, il y a d'autres plats, mais qu'on ne trouve pas à Ouaga, ou alors qu'on trouve uniquement à l'intérieur des familles, dans les familles qui viennent de ces ethnies-là. Et si tu vas dans les restaurants, c'est du riz sauce ou c'est du taux sauce feuille. Et du coup, de faire en sorte que une politique culturelle se réapproprie la valorisation de ces plats traditionnels-là, pour moi, ce serait super intéressant comme valorisation des identités, mais aussi comme favorisation d'une diversité alimentaire, parce que c'est des produits qu'on n'utilise plus ou pas de la même manière, et les remoderniser, les remettre au centre, ce serait pour moi assez intéressant. Et voilà.
Et peut-être aussi comprendre pourquoi certaines politiques ne fonctionnent pas. En fait, ça me renvoie à ce qu'on fait en ce moment avec Sandrine. En fait, on étudie les facteurs qui influencent la diversité de consommation alimentaire. Et un facteur qui ressort beaucoup, c'est l'ethnie. Et donc, les bobos ont une diversité de consommation alimentaire moins bonne. Et les autres migrants, donc il y a les Samo, les Sénofos, ont une meilleure diversité alimentaire, mais c'est dans la même région. Donc, c'est pas dans des régions différentes où il y aurait un climat différent, une production différente, etc. Là, ils peuvent produire les mêmes choses, etc. Et donc, ça montre que l'identité, c'est très intéressant, et que même si on augmente la production ou d'autres choses un peu plus concrètes, en fait, ça peut ne rien changer parce que... culturellement, c'est ça qu'ils mangent et qu'ils ne changeront pas, même s'ils augmentent leur production, en fait, ils ne changeront pas leur façon de manger. Mais on en a parlé juste avant, du coup, mais je ne savais pas que ça renverrait vraiment à ça.
Peut-être Georges, il voulait intervenir aussi
pour... Oui.
Jean-Simon.
Oui, oui. Merci. Merci pour cette présentation optimiste et rafraîchissante. Comme Nicolas, j'aime bien l'approche de formalisation, de prendre en considération le point de vue des acteurs qui est effectivement qu'on trouve dans beaucoup d'endroits, mais qui est intéressante et qui contribue à l'aspect un peu optimiste de l'approche. Je voudrais reprendre un certain nombre de choses qui ont été dites avec des commentaires ou des questions. Vous avez parlé justement de la, Pierre en particulier, la satisfaction qui contenait une part non exprimée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous considérez que cette part non exprimée est exprimable ou n'est pas exprimable. dans les commentaires qui ont été faits sur la définition de la sécurité alimentaire, vous avez mis en exergue en rouge satisfaire d'une part et les préférences alimentaires d'autre part. Je crois qu'il est important aussi de prendre en considération le mot social qui, comme vous le savez, a été ajouté en 2002 et qui, en fait, est social, mais qui cache toute une dimension socioculturelle derrière, dont on ne parle pas assez et qui recèle peut-être des ouvertures importantes pour des réflexions futures. Certes, vous dites la définition n'est pas ou n'est plus consensuelle. Certes, elle l'était en 1996, elle était le résultat de 6 ans de négociations. Le droit à l'alimentation, ou en tous les cas les guidelines, ont été approuvés bien après. Et donc, effectivement, là, la souveraineté alimentaire, on n'en parle pas du tout. Et effectivement, c'est bien de poser la problématique de sa mise à jour, ce qui est une chose que personne ne veut faire, effectivement, et qui est pourtant à l'ordre du jour. Intéressant, le graphique que vous faites sur la filiation du manque pardon, et cet ensemble d'ovales. Un de mes dadas, toutefois, et ceux qui me connaissent le savent, c'est d'insister pour remonter jusqu'aux années 30 et à ce qui s'est passé au sein de la Société des Nations dans les années 30 et que je ne vois pas dans votre graphique. Par ailleurs, je m'étonne aussi de ne pas avoir entendu parler de sécurité des aliments, du food safety en anglais, qui reste quand même une réalité scientifique importante à l'heure actuelle, qui se développe, qui cherche son identité, qui est relativement bien insérée dans la sécurité alimentaire, mais dont vous ne parlez pas. Par ailleurs, lorsque vous parlez de manière tout à fait passionnante des préférences, de l'évolution, etc., on a l'impression d'évoluer un petit peu dans un laboratoire protégé du monde extérieur. Peut-être c'est le cas à Ouaga, j'en doute un peu. Mais enfin, il y a un certain nombre d'autres exemples dans le monde où l'évolution des préférences est fortement influencée par des facteurs exogènes liés aux médias, liés à la publicité, liés au travail que font les grands groupes agroalimentaires et qui ont un effet direct sur les préférences et les comportements, et c'est leur voûte d'ailleurs. Il y a des cas où, comme l'Égypte, où la situation est quasiment tragique. Récemment, à la chaire UNESCO, en janvier, on a abordé rapidement la réalité du Pérou. Au Pérou, on a la problématique de la quinoa qui a été bien promue sur le marché international, qui se vend, qui crée des exportations, qui crée des revenus, mais qui, dont le prix a augmenté localement et donc qui n'est plus accessible aux populations qui pouvaient l'acquérir avant, qui pourrait se retourner vers d'autres produits locaux, mais qui, au contraire, se tourne vers des junk food, vers des produits industriels. Et donc là, il y a une modification de culture et de préférence qui est déterminée par des facteurs exogènes. Et enfin, une question que j'ai pas encore bien saisie. Il y a longtemps que je connais Nutricette, j'ai beaucoup de respect pour la famille Lescane et ce qu'ils ont fait. Je voudrais savoir un petit peu dans votre vue quel est l'intérêt de Nutricette en soutenant votre recherche. Merci.
Mais concernant deux de vos points, bon, démarrons tiens sur Nutricette. Quel est l'intérêt de Nutricette pour promouvoir une recherche un peu fondamentale ou appliquée? Bon, il y avait deux choses, parce que c'est une convention qui est finalement l'aboutissement d'une chaire qui n'a pas vu, une chaire académique qui a été validée par Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans lequel il y avait l'IRD, et qui n'a pas vu le jour, compte tenu de certains dysfonctionnements au sein de l'IRD. Je serais assez pudique là-dessus, quant à mon institut d'appartenance. Et donc on est reparti sur un produit qui un produit plus réduit. Alors, ça correspond aussi à un passage un peu de changement de modèle d'entreprise, en temps passé, d'un modèle purement traitement curatif de la malnutrition à la mise au point de produits de prévention de la malnutrition, s'appuyant sur la promotion de ressources agricoles locales. Bon, pour l'instant, j'étudie pas ça parce que il y aurait un conflit d'intérêts. Mais je saisis bien que s'intéresser à ce que les sciences sociales peuvent dire de la sécurité alimentaire et de l'alimentation, c'est une sorte de prospective, l'idée de s'informer un peu, d'être un peu une sorte de voltigeur intellectuel pour décrypter, comprendre et réapproprier ou retranscrire en interne, peut-être au sein de l'entreprise, certains éléments qui n'ont pas le temps d'aborder, parce qu'ils sont très sur la question des produits, les technologies, les procédés et process alimentaires. C'est vrai qu'on est très éloigné d'eux en termes de cadre de référence, de familiarité, de manière de réfléchir. Alors, moi, je fais des messages qui sont toujours trop longs, trop complexe, trop dense, trop conceptuel. Bon, je ne vais pas me changer, je suis chercheur, donc je comprends que ça puisse être fatigant. Mais du coup, on a une grande liberté de penser, de réfléchir et d'agir. Et pour l'instant, les attendus du côté de l'entreprise, à mon avis, ne sont pas assez précisés. Je n'ai pas encore compris ce qu'on pouvait représenter, si ce n'est une part un peu de crédit impôt recherche ou un peu de supplément d'âme de la part de l'entreprise. Mais bon, pour moi, c'est une expérience humaine et une aventure intellectuelle assez innovante, intéressante. Alors, dans d'autres disciplines, on est déjà marié au grand capital, mais vous voyez, même au sein de mon UMR, le fait de se rapprocher d'être financé par une entreprise, je suis perçu comme un extraterrestre et comme si j'étais un transfuge, quoi. Je trahis l'État, je trahis... voilà, bon, je leur explique.
On m'en parle encore.
Un peu ?
Ouais, on m'en parle encore, mais parfois, souvent, de manière un peu agressive. Mais bon, je ne désespère pas de convaincre aussi en interne tout ça. Donc pour moi, non, il n'y a pas. Voilà. L'entreprise est peu présente. On ne va pas étudier leurs projets, on ne va pas étudier comment Nutricet se confronte avec le GRET sur les farines. Et voilà, pas du tout. Hein. Donc pour l'instant, on a plutôt une assez grande liberté de manœuvre et d'agir. Concernant l'absence de food safety, c'est vrai que c'est une erreur et un oubli de ma part. Et pourtant, Dieu sait, ce schéma, il a déjà quelques temps et je le modifie pour mon séminaire de recherche. Mais c'est un oubli de ma part. C'est vrai que... Donc, je vais sans doute vous renvoyer le schéma pour que vous puissiez rajouter ce halo des années 30 et de la période coloniale pour lequel je ne suis pas très bien outillé en termes de connaissances et de lecture. Mais vous pourriez... quatre mains, le compléter ou le valider, il devrait être testé en effet par une analyse en termes d'occurrence de mots, etc. C'est ce que je n'ai pas fait là. C'est un peu supputatif et ça reste très qualitatif. Et sur la dimension sociale, c'est vrai, nous avons assez. On a peut-être oublié de la faire ressortir. Pour moi, c'est un peu un. C'est-à-dire. Il est pour le coup un peu négligé et il leur demanderait d'être déployé pour envisager l'ensemble des dimensions ou des appréhensions qu'il recouvre. Mais du coup, souvent, on n'y a pas beaucoup réfléchi, on l'a un peu oublié également. Je le reconnais.
Emmanuel, chance ?
Moi, je voulais vous remercier pour l'exposé vraiment super, très intéressant. Et pour tout le travail qui a été fait, surtout que moi j'ai fait ma thèse sur l'alimentation il y a une vingtaine d'années, donc c'est vraiment intéressant de voir comment se renouvellent les questions. Et en même temps, j'ai retrouvé un certain nombre de choses qu'on est en train d'étudier dans une enquête à Ouaga, qui est une enquête sur les pratiques émancipatoires et sur les pratiques solidaires dans l'alimentation en lien avec les modes d'habiter en ville. Et donc cette question des préférences alimentaires, évidemment, donc, est ressortie. Et je pense que le travail que tu as fait, Raphaël, sur cette question des préférences alimentaires est vraiment très important pour déconstruire cette notion de préférence alimentaire et aller jusqu'à un lien avec, du coup, la définition de la sécurité alimentaire qui porte ça comme objet clé, qui porte ça dans sa définition. Je pense que préférence alimentaire peut être déconstruite, pas uniquement en rapport avec l'économie classique. C'est un vocabulaire qui fait partie de la grammaire libérale en général, qui s'appuie sur la notion de choix, d'options, donc d'individus faisant des choix entre différentes options, et sur une notion d'individu autonome et responsable, etc., qui a ses filiations avec l'économie standard, mais qui est plus largement liée à une anthropologie politique libérale. Voilà. Et bon, par rapport à ça, donc, j'avais deux remarques. La première, c'est que sur cette question de préférence alimentaire, dans les enquêtes qu'on a faites cette année, on a vu qu'on peut resituer des différences d'expressivité de cette question des préférences en fonction de la trajectoire des personnes. Donc, c'est ce que tu dis en disant la grand-mère et la mère n'ont pas le même potentiel d'expressivité de préférences. Et alors, nous, c'est ressorti autrement dans des entretiens avec des jeunes filles qui n'étaient pas encore mariées, mais qui avaient 25, 26 ans, donc qui étaient prêtes à se marier. Elles avaient un potentiel d'expressivité de préférence très, très développé. Elles le déployaient complètement. Et quand on leur a demandé de se projeter dans leur ménage, une fois mariées, c'était une autre histoire. C'était à ce moment-là, par exemple, celles qui ne voulaient absolument plus manger, enfin, qui ne mangeaient plus de tôt, ni chez elles, ni dehors, etc., disaient « Ah, mais là, ça va dépendre du mari quand même. Si le mari veut du tôt, je ferai du tôt. » Donc, c'est ressorti. Donc, cette question de la trajectoire sociale, liée au statut, etc. Il y a eu aussi la notion de situation qui est beaucoup ressortie dans les entretiens avec les adolescentes qui, dans des situations de sortie en ville, avaient une très très forte aussi capacité comme ça à déployer leurs préférences vers les plats qu'elles disent à la mode, etc. Donc les pizzas, les paninis, etc., etc. Mais qui, dans des contextes familiaux plus classiques ou à l'extrême, dans des moments de fête, etc., sont beaucoup moins capables en fait d'exprimer de parler en termes de préférence. Et puis ce qu'on a trouvé aussi intéressant, c'est le poids le rôle du mari dans la capacité de brider ou pas cette expression des préférences. Donc on est tombé sur des femmes par exemple qui avaient des livres de recettes épais comme ça dans leur bureau, une secrétaire qui avait ça dans son bureau, mais qui pour l'instant, tant qu'elle vivait avec la belle famille à Ouaga, ne pouvait pas exprimer son potentiel culinaire parce que le vieux de la concession interdisait tout un tas de recettes, etc. Et sur le taux, la figure emblématique, c'est le taux. Et il y a beaucoup d'hommes dans les concessions comme ça, à Ouaga, enfin, c'est le discours qu'on a eu des femmes, qui refusent, entre guillemets, de moderniser la recette du taux, ce que veulent les enfants, ce que voudraient certaines femmes, etc. Donc c'était intéressant. Mais pour revenir à cette histoire de préférence alimentaire qu'on peut relier à une grammaire libérale, je pense que du coup, ce qui est intéressant, c'est de montrer les autres modalités d'action qui procurent une satisfaction, mais qui ne sont pas liées à une action libérale. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des choses dans l'alimentation qui procurent satisfaction sans que ça passe par la capacité à faire un choix et à exprimer des préférences. Et par exemple, dans le travail qu'on a fait sur les cuisines, on a regardé le rapport intime en fait, des femmes avec leurs objets de cuisine. Et on voit, et d'ailleurs c'est très difficile à mettre en mots, parce que du coup c'est une autre modalité d'action qui est plus basée sur les rapports personnels entre la femme et ses objets de cuisine, etc., etc., mais qui permet aussi d'arriver à une satisfaction. Et du coup, si on veut déconstruire la notion de préférence, il faut voir ce qu'on a écarté comme autre modalité d'action qui permet une satisfaction.
Je trouve ça effectivement très intéressant de parler de ces autres modalités d'action. Et c'est vrai que je me rends compte que cette utilisation du terme préférence n'est pas forcément la plus pertinente. Dans ma tête, elle englobait autre chose que juste ce choix-là, cette notion de choix-là. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé de terme plus adéquat, donc je le garde encore en stand-by, mais en essayant de trouver un terme plus adéquat. Je trouve ça aussi très intéressant ce que tu dis sur
l'expressivité des préférences qui est liée au statut et comment on peut passer donc, d'un statut de jeune fille, par exemple, à un statut de femme mariée et comment cette expressivité des préférences va se réduire, va s'amoindrir. Ceci dit, si elle se réduit dans l'expressivité, dans la pratique, ce panel de choix, même s'il est un petit peu plus contraint, il me semble existe toujours et il y a toujours des recours pour cette diversité. Et je pense que c'est intéressant dans ce sens de s'intéresser aux pratiques de grignotage individuel, enfin de snacking ou de prise hors des repas ou de restauration hors du foyer. Parce que c'est très peu évoqué dans le discours quand on parle de l'alimentation, surtout quand on est une femme, parce qu'effectivement il y a ce rôle de mère nourricière, de nourrir la famille, de très contraint. Mais les pratiques individuelles existent toujours, même si elles ne sont pas énoncées de la même manière. Et moi, je m'en suis principalement rendu compte avec Bintou, là, qui est la personne qui prenait en charge l'alimentation de la famille, qui disait, a priori, non, moi, on mange ce qu'on a, je prépare à manger, et puis on n'a pas le choix, et puis c'est comme ça. Mais dans la pratique, si, on se rend compte effectivement que il y a tout un tas de recours à différents types d'alimentation, à différents moments, avec des socialités différentes, enfin avec une commensalité particulière à chaque moment, mais qui ne sont pas énoncés quand on aborde juste la question des préférences. Et c'est assez intéressant, effectivement, de voir comment ça se reconfigure en fonction du statut de la personne et de son changement de statut individuel. Après, je voulais juste revenir au questionnement de Georges sur les préférences et l'évolution liée aux facteurs exogènes, notamment du coup aux pratiques importées, aux produits importés, etc. Ça fait évidemment partie des questions, des données que j'ai récoltées, mais que je n'ai pas mis en valeur ici parce que j'essayais justement de me focaliser plus sur ce lien entre socialité, sociabilité, marge de manœuvre individuelle et préférence. Mais voilà, j'aurais plein de choses à dire, mais ce serait pas l'objet ici. Et juste sur l'idée, enfin sur le lien de Nutricept, mon contexte est un peu différent parce que Pierre est en convention de recherche avec Nutricept et moi je suis en thèse CIFRE avec Onyx, qui est une autre entreprise du groupe Nutricept, qui Onyx a plus pour objectif de s'éloigner du traitement de la malnutrition et d'aller plus vers des aliments de prévention et surtout de trouver des systèmes de distribution d'aliments de prévention. Et au-delà des aliments de prévention, c'est surtout des aliments de consommation courante, mais toujours estampillés avec la qualité nutritionnelle, sanitaire, etc. Donc concrètement, ma thèse sur les pratiques alimentaires des Burkinabés à Ouaga les intéresse, on dirait, d'un point de vue un peu plus marketing, quoi. Ce qui m'a énormément posé de questions au début de ma thèse, ce qui me pose encore évidemment beaucoup de questions, mais que j'essaye de gérer. Et Onyx, enfin, le groupe Nutricept a cet avantage-là d'être extrêmement ouvert et de me laisser gérer ma thèse tout à fait comme je l'entends. Et on essaye de travailler en symbiose. Voilà. C'était juste pour préciser ces points-là. C'est bon ? On clôt. Merci beaucoup à tous. Merci bien. Je pense qu'on peut encore continuer à discuter à table ou en aparté. À la prochaine. Merci encore.